Deuxième partie. Le paradis bleu. Dévare-toi. Chapitre 1. Le dévare-tête. 1. Les quatre voyageurs réunis. 5. En comptant Otay de l'entre-deux-mondes, se tenaient au pied du lit de Mia à fixer ce qui restait du duox de Susanna, de sa jumelle, autrement dit. Sans les vêtements vides dessinant la silhouette du cadavre, aucun d'eux n'aurait sans doute pu identifier clairement ce qu'ils avaient sous les yeux. Même l'enchevêtrement de cheveux au-dessus de la calebasse éventrée qui avait été la tête de Mia avait l'air tout sauf humain. Ça aurait pu être un lapin du désert particulièrement gros. Roland observait ces indices qui disparaissaient sous ses yeux, se demandant comment il pouvait rester si peu de choses d'une femme dont l'unique obsession, le petit gars, encore et toujours le petit gars, avait été si près de ruiner leur entreprise tout entière. Et sans eux, qui resterait-il pour tenir tête au roi cramoisi et à son diabolique chancelier? John Cullum? Aaron Dipno et Moses Carver? Trois vieillards dont l'un malade de la bouche noire, qu'Eddie appelait « cancer ». « Voilà ce que tu as fait », se dit-il en contemplant captivé le visage qui retournait à la poussière. « Voilà ce que tu as fait, et tu aurais bien fait pire si fait, sans l'ombre d'un doute ou d'un scrupule. Et c'est ainsi que périra le monde, me semble-t-il. » Victime non pas de la haine, mais de l'amour. Car depuis toujours, l'amour est la plus destructrice de toutes les armes. Il se pencha, respirant ce parfum qui rappelait celui des vieilles fleurs et des anciennes épices, et expira. Ce qui ressemblait vaguement à une tête s'envola en poussière comme le duvet d'un pissenlit ou d'un laitron.
Elle ne voulait aucun mal à l'univers,
dit Susanna, la voix mal assurée.
Tout ce qu'elle voulait, c'est ce qu'est en droit d'attendre une femme, avoir un enfant, quelqu'un à aimer et à élever.
Si fait, acquiesça Roland. Tu dis vrai. C'est ce qui rend sa mort si tragique.
Parfois, je me dis qu'on s'en porterait tous mieux si les gens bien intentionnés pouvaient juste aller crever dans leur coin.
Hasarda Eddie.
Alors nous, on ne ferait pas long feu, grand,
souligna Jake. Ils réfléchirent à ce constat, et Eddie se surprit à se demander combien d'hommes ils avaient déjà tués avec leurs bonnes intentions. Ils se fichaient des méchants, mais il y en avait eu d'autres. Suzanne, l'amour perdu de Roland, n'était qu'une d'entre eux. Puis Roland délaissa les restes du cadavre de Mia et s'approcha de Susanna, assise sur l'un des lits voisins, les mains croisées entre ses cuisses.
« Raconte-moi tout ce qui t'est arrivé depuis que tu nous as laissés sur la route de l'Est après la bataille. Il faut que nous... »«
Roland, je n'ai jamais eu l'intention de vous laisser. C'était Mia. » Elle a pris le contrôle. Si je n'avais pas eu un endroit où aller, un dogan, elle aurait sans doute pris complètement le contrôle.
Roland hocha la tête pour lui exprimer qu'il comprenait.
Quoi qu'il en soit, raconte-moi comment tu es arrivé à ce devoir-tête. Et Jake, ce sera ton tour ensuite.
Devoir-tête, répéta Eddie.
L'expression lui était vaguement familière. Cela avait-il à voir avec Chevin de Shaiven, le lent mutant aux souffrances duquel Roland avait mis fin à Lovell? Il lui semblait bien que oui.
Qu'est-ce que c'est?
D'un geste de la main, Roland balaya toute la pièce remplie de lits, chacun équipé de son casque et de son câble métallique articulé. Ces lits sur lesquels les dieux seuls savaient combien d'enfants des Kala s'étaient fait massacrer, allongés là.
Ça signifie petite prison, ou chambre de torture.
Elle m'a pas l'air si petite à moi, commenta Jake.
Il n'aurait pas su dire exactement combien de lits se trouvaient là, mais il estimait leur nombre à 300. 300 au moins. Il se pourrait qu'on en croise une plus grande avant la fin de cette aventure. Raconte ton histoire, Susanna, et toi aussi, Jake.
Et où ira-t-on ensuite ?
Demanda Eddie. C'est peut-être leur récit qui nous le dira, répondit Ralant. 2. Ralant et Eddie écoutèrent dans un silence fasciné le récit alterné des aventures de Susanna et de Jake. Ralant interrompit Susanna une première fois lorsqu'elle parla de Mathisen Van Wyck, qui lui avait donné son argent et avait réservé pour elle une chambre d'hôtel. Le pistolero interrogea Eddie au sujet de la tortue dans la doublure du sac.
« Je savais pas que c'était une tortue. J'ai pris ça pour un caillou. »«
Si tu répètes ce passage, j'écouterai volontiers, » dit Ralant.
Alors, en se concentrant, essayant de n'omettre aucun détail, car tout ça paraissait tellement loin à présent, Eddie raconta comment lui et le père Callahan s'étaient rendus à la grotte de la porte et avaient ouvert la boîte en bois fantôme contenant la 13e noire. Il s'attendait à ce que le cristal noir ouvre la porte. Et c'est ce qui s'était produit, mais avant ça...
« On a mis la boîte dans le sac. Celui qui portait l'inscription « Rien que des strikes » à l'antre de quille, côté New York. Et « Rien que des strikes » dans l'antre de monde, côté Calabrine Sturgis. Vous vous rappelez ?»
Ils se le rappelaient tous.
« Et j'ai senti quelque chose dans la doublure du sac. Je l'ai dit à Callahan et... »
Eddie retourna les faits dans sa tête.
Et il a dit « Ce n'est pas le moment de s'en préoccuper, ou quelque chose dans ce goût-là. » J'étais d'accord. Je me rappelle, Maître Dick, qu'on avait déjà assez de mystères comme ça sur les bras, sans s'en rajouter. « Ralant, qui diable a pu mettre ce truc dans le sac, d'après toi ?»« Et pendant qu'on y est, qui a laissé ce sac dans le terrain vague ?»
ajouta Susanna.
« Et la clé ?» renchérit Jake. « C'est dans ce même terrain vague que j'ai trouvé la clé du manoir de Dutch Hill. C'était la rose ? Est-ce que ça peut être la rose qui... Je ne sais pas. Qui les fabrique ?»
Roland y réfléchit.
« Si je devais prendre le pari, je dirais que c'est Cy King qui nous a laissé ses signes et ses sigles. »
« L'écrivain, »
fit Eddie. Il considéra cette perspective, puis se mit à hocher lentement la tête. Il se rappelait vaguement un concept appris au lycée. Le dieu dans la machine, ça s'appelait. Il y avait aussi une expression latine sophistiquée, mais ça ne lui revenait pas. Il devait probablement être en train d'écrire le nom de Marie-Lou Kenopensky sur son bureau quand les autres gamins prenaient sagement des notes. L'idée de base, c'était que, si un dramaturge se retrouvait coincé, il pouvait toujours envoyer un dieu qui débarquait du ciel dans un buca décoré de fleurs pour venir à la rescousse des personnages dans la panade. Ce qui réjouissait sans doute les amateurs les plus fervents, qui croyaient que Dieu, par la version avec effets spéciaux qui déboulait d'une plateforme suspendue au-dessus du public, mais le dieu qui était aux cieux, sauver réellement ceux qui le méritaient. Les idées de ce genre étaient sans doute démodées en ces temps modernes, mais Eddie pensait que les écrivains populaires, ce que Cy King avait l'air de devoir devenir, devaient encore se servir de ce procédé en le déguisant seulement un peu mieux. Des petites écoutilles de secours, des cartes qui disaient « Vous sortez de prison » ou « Vous réchappez de l'attaque des pirates. » Ou encore, exécution repoussée pour cause d'orage énorme et de coupure d'électricité. Le dieu dans la machine, qui n'était autre que l'écrivain, dans son travail de fourmi, faisait de son mieux pour garder ses personnages à l'abri des ennuis, afin que son récit ne s'achève pas sur une phrase pitoyable du genre « Et tout le cathède fut balayé sur Jericho Hill et les méchants l'emportèrent. » « Vive Discordia, on fera mieux la prochaine fois. »« Mais quelle prochaine fois ? Ha ha ! Fin !» Des petits filets de secours comme une clé.
sans parler d'une figurine en forme de tortue. S'il a mis ce genre de choses dans son histoire, suggéra Heidi, c'était bien après qu'on l'a vu en 1977.
Si fait, acquiesça Roland.
Et je pense pas qu'il les ait trouvés tout seuls, ajouta le jeune homme. Pas vraiment. Lui, il est juste, je sais pas, juste un...
Un guignol?
Hasarda Susanna le sourire aux lèvres.
Non, trancha Jake, l'air un peu choqué. Pas un guignol, c'est un émissaire, un diffuseur.
Il repensait à son père et au travail de ce dernier au sein de la chaîne.
Bingo!
Fit Eddie en tendant l'index en direction du garçon. Et cette idée en amena une autre. Si Stephen King n'était pas resté en vie assez longtemps pour écrire ces choses-là, la clé et la tortue n'auraient plus été là quand ils en auraient eu besoin. Jack se serait fait dévorer par le gardien du manoir de Dutch Hill, à supposer qu'il fût arrivé si loin, ce qui n'aurait sans doute pas été possible. Et s'il avait échappé au monstre de Dutch Hill, il se serait fait gober par les aïeux, les vampires type 1 de Callahan, au cochon du Sud. Susanna songea à leur raconter la vision qu'elle avait eue, tandis que Mia entamait son ultime voyage, depuis le Plaza Park jusqu'au cochon du Sud. Dans cette vision, elle s'était retrouvée coffrée dans une cellule à Oxford, Mississippi, et elle avait entendu des voix à la télé quelque part. Chet Huntley, Walter Concrete, Frank McGee, des présentateurs qui récitaient les noms de tous les morts. Certains de ces noms, elle les connaissait, comme le président Kennedy ou les frères Diem. D'autres comme Christa McAuliffe, non. Mais l'un des noms était celui de Stephen King. Elle en était presque certaine. Le partenaire de Chet Huntley, « Bonne nuit, Chet. Bonne nuit, David. » disait que Stephen King avait été renversé et tué par une fourgonnette Dodge alors qu'il se promenait près de chez lui. King avait 52 ans, selon Brinkley. Si Susanna leur avait dit tout ça, beaucoup de choses auraient peut-être tourné différemment ou pas du tout. Alors qu'elle s'apprêtait à le faire, une poussière qui tombe sur la colline fait rouler un caillou qui entraîne une pierre plus grosse qui elle-même fait basculer deux rochers qui provoquent un glissement de terrain. Ils entendirent le déclic métallique d'une porte qui s'ouvre et des bruits de pas à l'approche. Ils firent tous volte-face. Jake s'emparant d'un Rizza et les autres de leurs armes.
« On se calme, les gars !» murmura Susanna. « Tout va bien. Je connais ce type. »
Et se tournant vers DNK 45932, domestique, elle lança
« Je ne m'attendais pas à te revoir si vite. En fait, je ne m'attendais pas à te revoir du tout. Quoi de neuf, Nige, mon pote ?»
Ainsi, cette fois-ci, une histoire qui aurait dû être racontée ne le fut pas. Et le Deus ex machina qui aurait pu descendre des cieux pour venir sauver un écrivain qui avait rendez-vous avec une fourgonnette Dodge un jour du printemps 1999 en fin d'après-midi, demeura où il était, suspendu très haut au-dessus des mortels qui jouaient leur rôle à ses pieds. 3. Ce qu'il y avait de bien avec les robots, se dit Susanna, c'est que pour la plupart, ils n'étaient pas rancuniers. Nigel lui raconta que personne n'avait su réparer son dispositif visuel. Il aurait pu le faire lui-même, ajouta-t-il, si on lui avait laissé l'accès aux pièces, aux disques et aux logiciels adéquats. Aussi était-il revenu par ici en se guidant par infrarouge, pour ramasser les restes de la couveuse cassée et complètement inutile. Il remercia Susanna de sa sollicitude et se présenta à ses amis.
« Enchanté, Nigel !» fit Eddie. « Mais il va falloir que tu t'occupes de ces réparations, j'intuite, sinon on ne pourra pas te garder. »
Eddie parlait d'une voix plaisante, et il avait rengainé son arme, mais il gardait la main posée sur la crosse. En réalité, il était un peu affolé par la ressemblance entre Nigel et certains robots messagers de sa connaissance dans la ville de Calabrine Sturgis. Et celui-là était vraiment du genre rancunier.
« Non, reste, » fit Roland. « Nous aurons peut-être des tâches à te confier. Mais pour l'instant, j'aimerais autant que tu ne fasses aucun bruit, que tu coupes le contact, si cela te sied. »
Ou pas, impliquait le ton de sa remarque.
« Certainement, Say, » répondit Nigel avec son accent british snob. « Vous pourrez me réactiver en prononçant la phrase suivante. Nigel, j'ai besoin de toi. »
« Excellent, » commenta Roland.
Nigel replia ses bras d'acier maigrichon, mais puissant à n'en pas douter, contre son torse et s'immobilisa.
« Revenu chercher les bouts de verre, » s'émerveilla Eddie. « Peut-être que la Tet Corporation pourrait les commercialiser. Toutes les ménagères d'Amérique rêveraient d'en avoir deux, un pour la maison et un pour le jardin.
« Moins on touchera à la science, mieux on se portera, »
déclara Susanna d'un air sombre. En dépit de son petit somme contre la porte New York Fédic, elle était blême, visiblement complètement épuisée.
« Regarde où ça a mené ce monde. »
Roland adressa un signe de tête à Jake, qui raconta ses aventures et celles du père Callahan dans le New York de 1999. Il commença par le taxi qui avait failli renverser O.T. et poursuivit jusqu'à leur assaut final à deux contre les ignobles et les vampires, dans la salle du Cochon du Sud. Il n'omit pas de raconter comment il s'était débarrassé de la 13e noire en la stockant dans une consigne du World Trade Center, où elle resterait à l'abri jusqu'au début juin 2002. Ou encore comment ils avaient trouvé la tortue que Susanna avait laissée derrière elle comme un message dans une bouteille, dans le caniveau, devant le Cochon du Sud.
« Que tu es courageux, »
dit la jeune femme en ébouriffant la chevelure du garçon. Puis elle se pencha pour caresser la tête d'Oté. Le bafouilleux étira son long cou pour profiter au mieux des caresses, les yeux mi-clos, un sourire animant sa petite tête finaude.
« Sacrément courageux. Grand merci, Sai Jack. »«
Merci, Ake, » acquiesça Oté. « Sans la tortue, il nous aurait eu tous les deux. »
Jake s'exprimait d'une voix assurée, mais il avait pâli.
« Et le père, il... »
Jake essuya une larme du plat de sa main et leva les yeux vers Roland.
« Tu as utilisé la voix pour me forcer à partir. Je t'ai entendu. »«
Oui, il le fallait, » dit le pistolero. « C'est exactement ce qu'il aurait voulu que tu fasses. »«
Ils ne l'ont pas eu, les vampires. Il s'est servi de mon rugger avant qu'il prenne son sang et qu'il le change en l'un d'eux. De toute façon, je ne crois pas que c'est ce qu'ils auraient fait. Je crois qu'ils l'auraient mis en pièces et qu'ils l'auraient dévoré. Ils étaient cinglés. »
Roland hocha la tête.
La dernière chose qu'il ait envoyée, je crois qu'il l'a dit à haute voix, mais je n'en suis pas certain, c'est...
Jake essaya de se rappeler. À présent, il pleurait à chaudes larmes.
Il a dit, « Puisses-tu trouver ta tour, Roland, et en forcer l'accès pour monter jusqu'au sommet. » Et ensuite...
Jake souffla doucement entre ses lèvres pincées.
Disparu, comme la flamme d'une bougie, parti vers d'autres mondes, quels qu'ils soient.
Il se tut. Ils se turent tous. Et ce silence était volontaire. Puis Eddie le rompit.
Très bien, puisqu'on est tous à nouveau réunis. C'est quoi la suite du programme ?